Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, la session ordinaire de mars s'ouvre ce lundi au Parlement congolais à Kinshasa. Mais avant, le président de la République s'est entretenu avec le président de deux chambres du Parlement. Au menu de leurs échanges, le suivi des accords de paix de Washington. Les Quinois ont peiné ce matin pour atteindre leur lieu de travail. Et pour cause, un arrêt des services déclenché par les conducteurs de taxis et taxibus qui revendiquent ce qu'ils appellent tracasserie excessive de la part des agents des régulations routières. Le TGI de Kananga a clôturé le 27 février les audiences foraines en matière répressive portant sur des cas de viols sur mineurs commis dans le territoire de Luissa. Sur les 13 accusés, 10 ont été reconnus coupables et condamnés par le tribunal. Pour en parler, nous recevons Merveille Nsangi Lola, la coordonnatrice générale de l'ONG Amour Plus, qui a aidé pour l'arrestation de ces accusés. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. La session ordinaire de mars s'ouvre ce lundi au Parlement congolais à Kinshasa. À la veille de cette rentrée, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Aimé Boji Sangara et Jean-Michel Samalukonde, ont été reçus par le président de la République. Au centre des échanges, le suivi des accords de paix de Washington, qui constitue un enjeu important de cette session parlementaire, indique la présidence. Cette session ordinaire de mars s'ouvre dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans l'est du pays. Plus de détails avec Grace Amzati, notre permanent au Parlement.
La session ordinaire de mars, prévue par la Constitution, est traditionnellement consacrée au contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. Au menu notamment, l'évaluation trimestrielle de l'exécution du budget de l'État, ainsi que les traditionnelles questions orales et autres mécanismes de contrôle à l'endroit de l'exécutif. Cette session intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant. Dans l'est du pays, plusieurs territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu restent occupés par la rébellion de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, tandis que les rebelles ADF poursuivent leurs attaques dans les régions de Beni, Lubero, au Nord Kivu et en Ituri. Autre dossier attendu, l'examen des projets de loi portant ratification de l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda, ainsi que de l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis. Ces textes sont déjà déposés au Parlement par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Pour la chef du gouvernement, il est important que les élus du peuple examinent ces accords afin d'en informer la population et d'accompagner les efforts en faveur de la paix et du développement du pays. Par ailleurs, cette session s'ouvre alors que les débats autour d'une éventuelle révision de la Constitution refait surface dans la classe politique congolaise, un sujet qui pourrait également alimenter les discussions entre parlementaires. Depuis le Palais du Peuple, Grâce à Mzati, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, les sommeils des habitants de quartiers Mugunga et Lac Vert ont été perturbés dans la nuit de dimanche à lundi par des tirs nourris et des détonations à l'arme lourde. Certains habitants affirment ce qu'ils ont entendu depuis 23 heures ressemblait à un véritable front de guerre. Certes, le calme est revenu vers 3 heures du matin, mais difficile de fermer l'œil à cause de la peur. Ce matin, les habitants ont pu constater les pillages des boutiques et même des corps sans vie, non loin du rond-point, c'est le cas. Le point sur la situation avec Suzanne Zobo-Odra.
Aux environs du rond-point CCLK ce lundi matin, le calme est revenu, mais les stigmates des affrontements de la nuit sont partout. Au sol, d'innombrables douilles éparpillées témoignent de la violence des combats qui ont secoué l'ouest de Goma. Sur la route qui mène vers Kanzana, deux grandes boutiques de vivres ont été littéralement vidées par les assaillants. Farine de maïs, riz, huile végétale, cartons de boissons et d'autres articles de valeur ont été emportés. Côté humain, deux corps, dont celui d'un homme en tenue militaire, ont été évacués le matin par un corbillard, signalant aussi qu'une boutique de matelas située sur la route principale a été ravagée par les flammes. Selon des témoins, des balles auraient atteint les stocks durant la nuit, provoquant un incendie qui ne s'est déclaré qu'au petit matin. Malgré une ambiance de peur, les élèves de ce coin, mais aussi d'autres milliers de la ville qui étudient dans les écoles situées dans ces quartiers, sont allés à l'école. Les commerces, eux, ont commencé à ouvrir timidement en fin de matinée. Mais la psychose est toujours bien visible sur les visages.
Au sud Kivu voisin, l'ambiance a repris normalement ce lundi au marché de Moudaka, dans le territoire de Kabare, après une journée de psychose la veille. Les boutiques, les magasins et les autres lieux de commerce ont rouvert leurs portes. Les écoles et les églises ont également fonctionné dans cette entité située à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Bukavu. Nancy Atambo revient sur les circonstances de cette psychose.
La population est sortie de la trop-peur dans laquelle elle avait été plongée toute la journée du dimanche 15 mars, craignant des affrontements entre les Wazalendo et la FC M23 dans le marché de Moudaka et ses environs. La pomme des discordes porte sur les taxes perçues chaque jeudi et dimanche dans ces marchés, taxes qui profiteraient à la FC M23, groupes armés qui contrôlent l'entité. Les Wazalendo retranchés dans le périphérie chercheraient à renverser cette situation. Jeudi dernier, un Wazalendo présumé a blessé au couteau un taxateur en plein marché de Moudaka. Le lendemain, des messages annonçant une attaque imminente pour le dimanche ont envahi les réseaux sociaux. La panique s'est alors emparée des vendeurs et vendeuses qui ont choisi de rester chez eux pour observer la situation. Conséquence, le marché de Moudaka a été complètement désert le dimanche 15 mars 2026. Le transport en commun sur la route nationale numéro D entre Bukavu et Kavumu a également été perturbé. Les chefs de groupement de Moudaka confirment que tout est revenu à la normale ce dimanche.
En Ituri, les projets réalisés par les organisations féminines ont un impact considérable dans la vie des milliers d'habitants de la province. Ces initiatives contribuent notamment à la résolution des conflits, à la réduction des violences armées, ainsi que des violences basées sur le genre. C'est le constat dressé par la défenseure globale des Nations Unies pour la paix au cours d'une réunion d'échange tenue dimanche à Bunia. Lors de cette rencontre, les organisations féminines ont également demandé à leur hôte de plaider pour la mobilisation des fonds afin de répondre aux besoins des communautés locales, en particulier ceux des personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Isaac Remoyope, reportage.
Les organisations féminines, dont la SOFEPADI et les femmes médiatrices pour la paix, interviennent dans plusieurs domaines, notamment la résolution des conflits armés et communautaires, ainsi que la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Leur impact est jugé significatif, notamment dans la pacification de la province, le renforcement de la cohésion sociale, la réduction des violences basées sur les genres et l'autonomisation des femmes. La défenseure globale des Nations Unies pour la paix, Myriam Boukarassan, a exprimé sa satisfaction quant au rôle joué par les femmes dans la consolidation de la paix.
Ils ont déjà beaucoup d'impact. D'abord, une jeune femme, l'hôpital de SOFEPADI à Bunia, qui a survécu à des violences, qui est elle-même devenue une infirmière et qui aide les autres. Ça montre vraiment la résilience.
Cependant, parmi les défis évoqués par ces organisations, figure le manque de financement pour pérenniser leurs actions. Elles ont demandé à leur hôte de porter leur plaidoyer auprès des instances internationales, l'une des leaders féminins.
Les femmes ont autant réalisé sur la question des paix et cette opportunité, c'est pour relayer leurs avis, leurs réalisations au niveau international.
La défenseure globale des Nations Unies pour la paix, Myriam Boukarassan, a clôturé ce lundi sa mission de 2 jours dans la province de l'Ituri. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Je le disais en titre, ce matin, la circulation est fortement perturbée à Kinshasa. De nombreux Kinois peinent à rejoindre leur lieu de travail et les étudiants ne sont pas épargnés. Certains sont contraints de parcourir de longs trajets à pied. En cause, un arrêt de service déclenché par les conducteurs de taxis et taxibus. Les conducteurs protestent notamment contre ce qu'ils qualifient de tracasserie excessive de la part des agents de régulation routière. Cet arrêt de service est observé dans l'attente des résultats des pourparlers en cours avec les autorités compétentes. C'est ce qu'a indiqué le président de l'association des chauffeurs, Kakule Kimbula. Bienvenue. Le président de l'association des chauffeurs du Congo s'est exprimé au micro Benjamin Mudumbi.
Par rapport à ces piquets, il y a eu des alertes tout à fait déjà inutiles où les peuples étaient en train de plaimanter par rapport au comportement de cette équipe qui a été déployée sur terrain. Les habits qu'ils sont en train de connaître sur terrain vis-à-vis des peuples, mais aussi l'activisme qui caractérise et pas qui est agent qualifié. Et c'est tout là que les peuples se sont dit, mais non, le président, vous devrez parler aux autorités des petits-pétiens. Et nous aussi, nous avions prévu nos autorités compétentes. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore de réaction. Et puis, il n'y a eu aucune déclaration du mouvement de grève, mais les chefs ML ont voulu associer quand même un arrêt des activités à un petit temps. Donc, ce tour du chauffeur, il faut créer des coûts de service autour du chauffeur. On va imposer, encore je ne sais pas, si c'est au de carte, vous avez votre permis de conduire, on va encore vous imposer que vous avez votre carte professionnelle. Donc, il y a beaucoup plus de 10 éléments qu'on est en tête de poser pour faire.
Kinshasa, toujours, l'avancement des travaux sur la route de Kimwenza dans la commune de Mongafula redonne espoir aux habitants et aux usagers longtemps confrontés à l'impraticabilité de cet axe. Pour de nombreux habitants, cette route représente bien plus qu'un simple axe de circulation. Elle constitue un passage essentiel vers les écoles, les zones d'approvisionnement en denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité qui alimentent plusieurs quartiers environnants. C'est un reportage signé Daniela Awa.
Rencontré sur les lieux de travaux, un père de famille venu accompagner ses enfants à l'école s'est réjoui de l'avancement du chantier.
Au début, la difficulté était plus grande parce qu'on était obligé de laisser nos véhicules quelque part. Je suis un parent, je quitte les beaux, j'amène mes enfants à une école de l'autre côté, obligé de traverser la partie ravin. Mais parlant de travail, ça évolue très bien.
Pour cette vendeuse de légumes rencontrée près du chantier, la réhabilitation de la route représente une véritable satisfaction pour les activités commerciales.
Nous étant des vendeuses de légumes, nous avons tellement souffert par rapport à l'état de la route. Petit à petit, nous reprenons nos activités. Nous sommes très contentes.
Les conducteurs de taxi-moto, très présents sur cet axe, saluent eux aussi l'évolution des travaux. L'un d'eux témoigne des difficultés qu'ils ont traversées durant les mois passés.
Nous avons connu de longues difficultés. Il était impossible d'arriver jusqu'à Kimwenza, même quand ils ont payé des mondes. D'ailleurs, cet endroit est devenu un arrêt.
Pour ces usagers, l'évolution des travaux marque déjà la fin progressive d'une longue période de difficultés sur cet axe essentiel de la commune de Mongafula. N'ayant pas souhaité s'exprimer à notre micro, l'entreprise y exécute les travaux, nous a tout de même préciser que cette route sera ouverte incessamment.
Dans la province de la Tchopakisangani, certaines maisons, terrasses et même des boîtes de nuit sont érigées sur des tombes. D'après la synergie des avocats pour le développement durable, la spoliation du cimetière de Kambakamba dans la commune de Kabondo a franchi les seuils du tolérable. Cette structure l'a dénoncée auprès du procureur général près la cour d'appel de Kisangani. Les explications avec Jacques Moukonkole.
Face à ce qu'elle qualifie de profanation à ciel ouvert, la synergie des avocats pour le développement durable passe à l'offensive. Dans une correspondance adressée récemment au procureur général près la cour d'appel de la Tchopo, l'ONG dénonce un réseau mafieux bien établi. Selon ce document, le mal est profond. Malgré les alertes passées, les pelleteuses n'ont pas reculé. Pire, l'organisation pointe du doigt des complicités internes au sein de l'administration foncière, de la municipalité et même des services de sécurité et de renseignement. Aujourd'hui, les avocats exigent une enquête minutieuse pour démanteler ce réseau. Leurs recommandations sont fermes. Annulation des titres fonciers illégaux, déguerpissement immédiat des occupants et surtout que l'État prenne ses responsabilités pour sécuriser les lieux de repos éternels. En attendant, à Kambakamba, le repos des morts est troublé par le bruit des chantiers. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Restons dans la province, la lutte contre les produits impropres à la consommation s'intensifie dans les territoires d'Ubundu. Samedi dernier, une importante cargaison de médicaments et des marchandises périmées a été incinérée au village Ouma à 92 km de Kisangani sur l'axe Ituri. Une opération menée dans le cadre de la campagne Zéro Produit Périmé visant à assainir les marchés locaux. Le papier de Jacques Moukonkole rendu par Kaki Akewa.
C'est un brasier symbolique qui s'est élevé samedi dernier dans les ciels du village Ouma, situé dans les secteurs des Bakumu Kilinga. Sous la supervision du service territorial de l'environnement et économie du climat, des stocks relativement importants des produits pharmaceutiques et des marchandises diverses dont la date de péremption était largement dépassée ont été incinérés. Cette intervention ne relève pas du hasard. Elle s'inscrit dans une vaste campagne de lutte contre la commercialisation des produits dangereux pour la santé publique. Pour les superviseurs du service de l'environnement, l'objectif est clair. Protéger la population contre les risques sanitaires liés à la consommation des produits contaminés. Pour sa part, l'administrateur du territoire, Verdo Yamulamba, tape du poing sur la table. Il rappelle aux opérateurs économiques leur obligation de respecter scrupuleusement les dates de péremption, mais aussi les conditions de conservation des marchandises. Pour l'autorité territoriale, la santé de la population ne doit en aucun cas être sacrifiée sur l'autel des profits. Que les commerçants véreux se les tiennent pour dit. Le secteur de Bakumu Kilinga n'était qu'une première étape. Verdo Yamulamba a d'ores et déjà annoncé que cette opération d'assainissement va s'étendre très prochainement à d'autres localités de sa juridiction.
Actualité internationale.
L'ancien chef d'État français et 10 autres prévenus sont jugés en appel à partir d'aujourd'hui dans l'affaire des soupçons des financements libyens de la campagne présidentielle de 2007. C'est un nouveau marathon judiciaire de près de 3 mois qui débute ce lundi 16 mars avec l'ouverture du procès en appel des soupçons des financements libyens devant les tribunaux correctionnels de Paris. Les débats qui seront menés par une nouvelle équipe des magistrats doivent durer jusqu'au 3 juin. Tour d'horizon des prévenus, tous présumés innocents.
L'invité.
Le tribunal de grande instance de Kananga a clôturé le 27 février les audiences foraines en matière répressive portant sur des cas de viols sur mineurs commis dans les territoires de Luisa. Sur les 13 accusés, 10 ont été reconnus coupables et condamnés par les tribunaux. Ils ont été arrêtés grâce au concours de l'ONG Amour Plus qui a constitué les dossiers et orienté les victimes vers une prise en charge juridique. Merveille Tsangilola, sa coordonnatrice générale, est notre invitée. Elle répond aux questions d'André Katende Ngalamouloumé.
Merveille Sangilola, bonjour.
Bonjour André et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent.
Amour Plus, votre ONG, a facilité l'arrestation des 13 personnes accusées des viols sur mineurs. Ces 13 personnes qui ont été jugées à la prison centrale de Kananga et parmi ces personnes, 10 condamnées. Comment est-ce que l'ONG Amour Plus a réussi à signaler ces cas?
J'aimerais commencer par une phrase qui dit « La justice élève une nation ». Il fallait faire en sorte que les victimes ou les survivantes puissent trouver justice. Parce que vous savez, peu importe les actions de prévention que nous mettons en œuvre, des réinsertions socio-professionnelles, appui psychosocial, si les victimes ne trouvent pas justice, elles vont se décourager et on aura moins de cas de signalement de violences sexuelles. Alors, tout a commencé par notre collaboration avec les différents acteurs, notamment les bureaux centrales de la zone de santé de Luisa, qui a été pour beaucoup dans l'identification de victimes de violences sexuelles qui ont été prises en charge au niveau des structures sanitaires à Luisa. Nous avons également travaillé avec le parquet secondaire, créé le tribunal de paix de Luisa, qui avait également des cas déjà identifiés, des bourreaux qui étaient en détention. Nous avons travaillé avec la police de protection de l'enfant de Luisa et le tribunal des grandes instances de Chimbulu.
Quelle est votre réaction face à ces sanctions?
Nous sommes très heureux aujourd'hui que sur les 13 bourreaux, 10 ont été condamnés, soit 76%, ce qui constitue un grand pas franchi dans la justice. On espère juste que ces bourreaux vont vraiment purger leur peine comme cela a été prononcé. Parce que vous savez, pour une survivante de violences sexuelles, le fait de savoir que son bourreau a été condamné et que son bourreau est en train de purger une peine en prison, c'est un soulagement énorme.
Les condamnations des bourreaux, qu'est-ce que ça représente dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans la communauté des Luisa?
Vous savez, la condamnation de ces 10 bourreaux représente un grand espoir, un espoir de justice pour les territoires des Luisa dans toute la communauté. Mais c'est aussi un grand pas dans la lutte contre les violences sexuelles au Kasaï central. Parce que ça fait des années que nous sommes dans la lutte, plus de 5 ans. Mais la justice a toujours fait défaut. Les victimes nous disent toujours, vous nous sensibilisez, on vient dénoncer, mais on n'a jamais trouvé justice, surtout dans les territoires de Luisa. Ça va décourager d'autres bourreaux parce qu'ils savent que, attention, la justice fait maintenant son travail. C'est vrai que les moyens sont limités, mais on va continuer de mobiliser des ressources pour appuyer la justice parce que c'est leur tâche, Aujourd'hui, le fait que 10 bourreaux soient condamnés, je vous assure, c'est un pas de géant dans la lutte contre les violences sexuelles et les mariages d'enfants dans les territoires des Luisans en particulier, mais dans la province du Kasaï central en général.
Quels sont les défis que vous avez rencontrés, surtout dans la collecte des données pour les dossiers?
Les défis sont vraiment énormes. Dans nos normes sociales, les gens ont très peur d'aller en justice. Quand les victimes entendaient qu'il fallait aller en justice, c'était difficile à avaler pour eux et pour leur famille. Et ce qui a été difficile également dans la collecte des preuves, vous avez vu que sur 13 bourreaux, 10 ont été condamnés et 3 ont été acquittés par manque des moyens des preuves. Ils ont peur des représailles, ils ont peur des regards de la communauté. Mais grâce à nos mobilisateurs communautaires, grâce aux leaders communautaires et toutes les autorités locales, qu'on a pu convaincre les victimes et leurs familles de pouvoir aller en justice.
En dehors de cet accompagnement juridique, est-ce que l'ONG AMO Plus a encore accompagné les victimes, un accompagnement psychologique, social et autre?
La prise en charge était holistique. Nous avons renforcé la prise en charge médicale des survivants de violences sexuelles. Au-delà de ça, le projet a un psychologue permanent. Non seulement lui, il y avait également des assistants psychosociaux pour la prise en charge psychosociale et la porte de sortie qui était la réinsertion socio-économique, socio-professionnelle. Parce que une fille qui a été victime de viol, le fait de l'autonomiser, c'est la rendre encore plus forte.
Merveille Sanguilola, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Merveille Sanguilola qui s'entretenait avec André Katende Galamouloumé. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal Parler de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota-Chivueta et supervisée par Suzanne Nzobo-Odra. La mise en onde était assurée par Pierre Diassinois. Ce journal est à suivre sur toutes les plateformes numériques de la Radio Okapi ainsi que sur notre site internet www.radiookapi.net.